VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du vendredi 7 juin 2019. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Soudan, les RSF, qualifiés de nouvelle version des Janjaweed du Darfour, sont accusés d'être les auteurs de la répression sanglante qui a fait une centaine de morts dans le pays.
Au Bénin, l'ancien président Boni Yayi a été convoqué devant un juge qu'il doit rencontrer aujourd'hui.
En Mauritanie, la campagne pour la présidentielle du 22 juin s'est ouverte officiellement aujourd'hui.
Au Libéria, de grandes manifestations pour réclamer de meilleures conditions de vie sont prévues aujourd'hui. Le premier test d'envergure pour le président George Weah.
Le Mexique a déployé 6000 hommes pour barrer la route aux clandestins se dirigeant vers la frontière américaine. Le président Donald Trump a menacé d'imposer des droits de douane à partir de lundi.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Soudan, le mouvement de contestation accuse les forces de soutien rapide d'être responsables de la répression sanglante qui a coûté la vie à une centaine de manifestants et du climat de peur qui s'est emparé de Khartoum. Le point avec Eric Manirakidza.
Depuis la dispersion brutale lundi du sit-in devant le QG de l'armée à Khartoum, les redoutées forces de soutien rapide, souvent jeunes, en uniforme beige et lourdement armées, déambulent dans les rues de la capitale ou circulent à bord de pick-up. Le numéro 2 du conseil militaire au pouvoir depuis la chute d'Omar el-Béchir commande cette puissante force paramilitaire. Mohamed Hamdan Daglo, surnommé Hemeti, a dirigé la milice Janjaweed parmi les tribus arabes chargées de la politique de la terre brûlée au Darfour et accusées de multiples exactions qui ont valu à Omar el-Béchir de mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, puis pour génocide. Les forces de Hemeti sont accusées d'avoir étouffé lundi dans le sang le mouvement de protestation pacifique qui ébranle le régime depuis décembre 2018. Depuis avril, Hemeti est devenu incontournable sur les télévisions soudanaises, tantôt pour s'attirer la sympathie en rendant visite sur son lit d'hôpital à un manifestant blessé, tantôt pour affirmer qu'il ne permettra pas le chaos. D'ailleurs, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine n'a pas attendu l'expiration du délai de 2 mois qu'il avait donné aux militaires soudanais pour le transfert du pouvoir au civil. Le Soudan est suspendu de l'Union africaine avec effet immédiat.
Signalons que le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed est à Khartoum pour tenter une médiation entre les militaires au pouvoir et les chefs de la contestation. Monsieur Ahmed est arrivé à l'aéroport de Khartoum, selon un correspondant de l'AFP sur place. Il doit rencontrer les dirigeants du conseil militaire, qui a pris le pouvoir après le renversement du président Omar el-Béchir, avant une réunion avec des leaders de la contestation.
Au Bénin, l'ancien président Thomas Boni Yayi a reçu hier une convocation au tribunal. Il devra rencontrer un juge aujourd'hui à son domicile Claire Morin-Gibourg.
Thomas Boni Yayi a reçu une lettre signée du juge Aubert Kodjo qui lui signifie sa convocation. En raison de votre qualité d'ancien président de la République, dans l'intérêt de l'administration de la justice, j'effectuerai le vendredi 7 juin à 15h30 un transport à votre domicile en vue de vous entendre dans la dite procédure, précise le juge. Boni Yayi, qui a dirigé le Bénin d'avril 2006 à avril 2016, n'a plus été vu en public depuis le 1er mai, après sa déclaration demandant l'arrêt du processus électoral. Le Bénin a tenu le 28 avril des législatives pour renouveler les 83 sièges du Parlement. L'opposition n'a pas participé à ce scrutin. Monsieur Boni avait appelé la population à se soulever, arguant que les députés élus entreraient au Parlement sur les corps des manifestants s'il le fallait. Depuis, l'ancien chef de l'État est assigné à résidence et son domicile est entouré depuis plus d'un mois par les forces de l'ordre.
Le géant pétrolier BP a démenti hier priver le Sénégal de la part du lion en ce qui concerne les futurs revenus de ses ressources en hydrocarbures, après avoir été mis en cause par la BBC dans un reportage qui épingle également un frère du président sénégalais Macky Sall. Les précisions d'Irénée Herman Umbo.
Le groupe BP ne confirme pas le montant du contrat confidentiel, 250 millions de dollars assorti de redevances de quelque 10 milliards de dollars sur 40 ans. Mais il refute vigoureusement cette représentation trompeuse et fallacieuse de ses activités au Sénégal, a déclaré hier le numéro 1 de BP au Sénégal, Jérôme Moussari. Le groupe ne reconnaît pas non plus le document produit par la BBC, présentant ce chiffre tellement faux et exagéré qu'il en est complètement fantaisiste. Il estime par ailleurs que le document a été produit par une autre partie. Même dans un scénario avec les conditions économiques et techniques très favorables, les royalties qui pourraient être payées par BP à Timis Corporation n'atteindraient même pas 1% de ce que la République du Sénégal pourrait recevoir, a-t-il indiqué. Toutes les royalties qui pourraient être payées à Timis Corporation seront exclusivement déduites des fonds de BP. Ces royalties n'auront donc aucun impact sur les revenus de la République du Sénégal ou ceux de ses partenaires, a souligné le patron de BP Sénégal.
En Mauritanie, la campagne pour la présidentielle du 22 juin s'est officiellement ouverte aujourd'hui à 2 semaines d'un scrutin censé consolider la démocratie dans ce vaste pays d'Afrique de l'Ouest, mais dont les préparatifs inquiètent l'opposition. Elle a dénoncé notamment la composition de la Commission électorale nationale indépendante dont elle juge les membres trop proches du pouvoir. Le président Mohamed Oud Abdelaziz, dont le second mandat s'achève en août, ne peut pas se représenter. 6 candidats sont en lice pour tenter de lui succéder. Un second tour, si nécessaire, se tiendra le 6 juillet.
Les Libériens sont attendus en masse aujourd'hui dans les rues de Monrovia pour réclamer de meilleures conditions de vie. Premier test d'envergure pour le président George Weah. Depuis plus de 2 mois, des dizaines d'associations de la société civile, réunies au sein d'un conseil des patriotes et soutenues par des partis de l'opposition, appellent dans les médias et sur les réseaux sociaux à manifester ce 7 juin. Mais des responsables de tous bords ont été accusés de vouloir, dit-on, créer des tensions entre l'élite américano-libérienne, descendante d'esclaves affranchis qui domine la vie politique du pays depuis 170 ans, et les autochtones, dont fait partie George Weah. Une guerre civile a fait quelque 250 000 morts de 1989 à 2003 au Libéria.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Tentant d'échapper à la menace du président américain Donald Trump d'imposer des droits de douane sanctionnant son laxisme présumé face aux migrants entrant aux États-Unis via son territoire, le Mexique a annoncé jeudi avoir déployé 6 000 hommes pour barrer la route aux clandestins. Il a aussi décrété le gel des comptes bancaires de 26 passeurs présumés de clandestins, le renvoi d'une centaine de Honduriens dans leur pays et l'arrestation de militants des droits des migrants. La veille, le Mexique avait stoppé environ 1 200 migrants qui venaient d'entrer au Mexique depuis le Guatemala. Pendant ce temps, poursuite des pourparlers américano-mexicains à Washington.
Une enquête multinationale sur le sabotage le 12 mai de 4 pétroliers a conclu à la responsabilité probable de, je cite, « un acteur étatique ». Mais aucune preuve ne permet à ce stade de dire qu'il s'agit de l'Iran, ont indiqué jeudi les Émirats arabes unis. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Cette enquête a été menée par les Émirats avec le concours de l'Arabie Saoudite et de la Norvège. Ses résultats préliminaires ont été présentés dans la journée aux membres du Conseil de sécurité de l'ONU lors d'une réunion informelle organisée par la mission émirati auprès des Nations Unies. Bien que les investigations soient toujours en cours, il y a de fortes indications que les 4 attaques sont intervenues dans le cadre d'une opération sophistiquée et coordonnée menée par un acteur doté de fortes capacités opérationnelles, vraisemblablement un acteur étatique, souligne un communiqué conjoint des Émirats, de l'Arabie et de la Norvège. Les États-Unis ont accusé l'Iran d'être très vraisemblablement derrière ces sabotages au moyen présumé de mines iraniennes et avec l'objectif, selon eux, de faire monter les prix du pétrole alors que Washington tente d'empêcher avec des sanctions Téhéran d'exporter son pétrole. L'Iran a rejeté toute implication. Les 4 navires, 2 bateaux battant pavillon saoudien, 1 sous-pavillon norvégien et 1 sous-pavillon émirati ont été endommagés par des explosions survenues dans les eaux territoriales émiraties près du port de Fujairah.
En pleine guerre commerciale avec les États-Unis, le président chinois Xi Jinping se voit dérouler le tapis rouge vendredi au principal rendez-vous des affaires en Russie. Il doit s'exprimer aujourd'hui aux côtés du président russe Vladimir Poutine et du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres lors de la séance plénière du Forum économique de Saint-Pétersbourg. Plusieurs accords commerciaux ont été signés mercredi au Kremlin, notamment un contrat très symbolique confiant au géant chinois des télécoms Huawei, accusé d'espionnage par les États-Unis, le développement de la 5G en Russie avec l'opérateur local MTS.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Inauguration au Nigeria de la plus grande usine de fabrication de bouteilles de gaz à usage domestique en Afrique de l'Ouest. Elle a une capacité de production de 5 millions de bouteilles par jour pour satisfaire la demande locale et celle de la sous-région. L'usine veut accélérer l'adoption du gaz afin d'aider le gouvernement à mieux lutter contre l'utilisation du charbon de bois. La Sonangol, société nationale angolaise de pétrole, a signé un accord avec United Shine pour construire une raffinerie à haute conversion dans l'enclave de Cabinda. La structure aura une capacité de traitement de 60 000 barils par jour. Elle produira du gasoil, de l'essence, des huiles et du kérosène. La raffinerie permettra de limiter les importations de pétrole raffiné. Terminons avec la Sierra Leone, où la Société financière internationale veut investir 60 millions de dollars dans les opérations de sables minéraux de Sierra Rutile. La première tranche de l'investissement d'un coût de 20 millions de dollars permettra à la SFI d'obtenir 3,57% de participation dans Sierra Rutile. La deuxième tranche de 40 millions de dollars portera sa participation à 10% lorsque les premiers travaux de construction du projet Sembeoun auront été approuvés. Le gisement de Sembeoun représente plus de 70% des réserves de minerais restantes de Sierra Rutile.
Les sports à présent avec Yakuba Ouedraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Commençons par le président de la CAF qui a été interrogé hier par les autorités françaises.
Oui, Ahmad Ahmad a été interpellé à Paris par l'Office anticorruption de la police judiciaire, de quoi amplifier le chaos après la polémique de la finale de la Ligue africaine des champions à rejouer. Le journal Jeune Afrique évoque une interpellation en rapport avec la rupture unilatérale d'un contrat entre la CAF et l'équipementier allemand Puma. La FIFA dit prendre note des événements présumés concernant M. Ahmad pour des allégations liées à son mandat de président de la CAF. La Fédération internationale soutient ne pas connaître les détails de cette enquête, mais demande aux autorités françaises toute information qui pourrait intéresser son comité d'éthique, entendez par là, la justice interne du football mondial.
Le Mali se prépare pour la CAN 2019.
Oui, les Aigles ont commencé les préparatifs cette semaine au Qatar. Le regroupement a déjà eu lieu le 1er juin dernier à Bamako. Mercredi, le président Ibrahim Boubacar Keïta a remis au capitaine des Aigles le drapeau du pays. Selon le sélectionneur, les joueurs sont dans un bon état d'esprit. On écoute Mohamed Magasouba.
Bel état d'esprit du groupe, parce que c'est sur la valeur du groupe que nous avons établi cette équipe. Nous n'avons pas basé cette équipe sur le talent seulement, sinon il y a d'autres talents qui pouvaient être là. Mais nous avons fondé cette équipe sur la valeur de l'esprit d'équipe. Mes joueurs et moi, nous préférons nous exprimer sur le terrain. On a fait le programme préliminaire ici au Mali. Nous allons faire la seconde étape du programme au Qatar, où il est prévu un certain nombre de matchs contre l'Algérie, contre le Cameroun, et puis un troisième match est en vue.
Mohamed Magasouba au micro de Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako.
Neymar forfait pour la Copa América.
Oui, la superstar du Paris Saint-Germain a fait état de son indisponibilité pour la Copa América chez lui au Brésil. Neymar sorti au cours du match américain contre le Qatar, a remporté 2-0 mercredi à Brasilia, souffre d'une rupture ligamentaire au niveau de la cheville droite, d'après la fédération brésilienne. Ney a déjà raté près de 3 mois de compétition, dont les huitièmes de finale de la Ligue des champions pour son club, après s'être blessé au pied droit, le même qui a subi une opération en 2017.
Golden State toujours privé de Durant pour le match numéro 4 ce soir.
Oui, le double champion NBA en titre mené 2-1 par Toronto dans la finale sera encore privé de son ailier absent depuis plus d'un mois. Kevin Durant, élu meilleur joueur des deux dernières finales, s'est blessé à un mollet le 8 mai contre Houston lors du match numéro 5 de la demi-finale de la Conférence Ouest. L'entraîneur de Golden State a toutefois enregistré une bonne nouvelle. Son arrière Klay Thompson, blessé à un ischio jambier dimanche et indisponible mercredi, pourra disputer le match de ce soir.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le Soudan est suspendu de l'Union africaine. Au début du mois dernier, l'organisation panafricaine avait donné 2 mois aux militaires pour rendre le pouvoir aux civils. Depuis le début de la crise, les États-Unis ont eu de leur côté la même exigence. Le Soudan a subi les sanctions américaines et Washington l'avait placé sur la liste des pays soutenant le terrorisme. Pourquoi cette réaction rapide des Américains face à la crise politique à Khartoum? Idriss Fall avait comme invité hier dans nos studios Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines.
Ce qui s'est passé, c'était presque le génocide l'autre jour. La crise a commencé quand les civils ont fait des manifestations. Les militaires ont commencé à négocier raisonnablement. Mais qui est intervenu? Le gouvernement des Émirats et le gouvernement d'Arabie Saoudite. Ils ont dit aux militaires, voilà l'argent, voilà les armes. Nous insistons que vous empêchez les civils de prendre le pouvoir parce que chez ces civils, il y a des islamistes. C'était complètement ridicule. Et à cause de ça, 100 personnes sont mortes aujourd'hui. Et l'Amérique n'accepte pas ça. Et ils ont fait beaucoup de pression sur les Émirats et sur l'Arabie Saoudite de cesser tout ça. Et maintenant, les militaires comprennent.
Oui, mais il n'y a pas que les militaires. Les miliciens qui ont attaqué. Leur patron, c'est un ancien dirigeant des Janjaweeds, que vous connaissez bien.
Oui, ce sont des monstres, ces gens-là. Et ils vont être inculpés par la Cour internationale maintenant. C'est inévitable. Et donc, les militaires qui ne sont pas avec eux, ils
La Cour internationale avait déjà inculpé Omar el-Béchir, il n'a jamais été arrêté. Et si on les inculpe, ça va servir à quoi?
Il sera arrêté maintenant avec les Janjaweeds. Tout le monde va partir à la haie, je vous promets. Et maintenant, l'Amérique est vraiment enragée. Et les militaires doivent donner le pouvoir aux civils rapidement, où il y a des grosses sanctions contre eux.
Vraiment, et vous pensez que les sanctions, parce que quand même les États-Unis avaient des sanctions contre le Soudan pendant longtemps, embargo placé sur la liste des pays qui pratiquent le terrorisme, donc quel type de sanctions pourrait-il y avoir à nouveau?
Ce sera pire maintenant, ils vont bloquer le pétrole, ils vont faire les sanctions sur le dollar, ils n'auront pas le moyen de dépenser les dollars. Vous voyez ici, ils ne donnent pas le pouvoir aux civils.
Mais les civils aussi, ils sont très divisés. Il y a l'ancien premier ministre de Kelmadi, il y a l'alliance des professionnels. On ne sait pas qui sont ces civils aussi.
Oui, mais il faut une élection pour savoir.
C'était Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Les États-Unis s'engagent à doter le Niger de plus de 21 millions de dollars pour ses efforts dans le cadre du G5 Sahel. Il a été procédé hier à la réception d'une partie de cet appui composé essentiellement de matériel et équipements militaires. Précision de notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Ce premier lot a été remis au ministre de la Défense par l'ambassadeur américain au Niger. Il est composé de camions citernes pour le transport de carburant et de l'eau, de systèmes de navigation GPS, de tentes militaires et d'équipements individuels pour les soldats. Il sera suivi dans les mois prochains par des véhicules blindés et tactiques, du matériel de communication et des équipements de protection individuelle. Le principal destinataire, c'est le bataillon nigérien déployé dans le cadre de la force conjointe du G5 Sahel. Le diplomate américain espère que cela va renforcer leur capacité pour améliorer la sécurité le long des frontières avec le Mali et le Burkina Faso face aux organisations extrémistes violentes. Eric Whitaker.
L'assistance fournie par les États-Unis à la force commune de ces 5 Sahel n'est qu'un des éléments de l'appui au secteur de sécurité élargi et la plus long terme fournie par les États-Unis au Niger. Par exemple, le bureau de coopération en matière de sécurité de l'ambassade a pris des dispositions pour que le Niger reçoive 22 véhicules de transport de troupes blindes de Mamba. Un autre, les États-Unis ont fourni 4 aéronefs Cessna C-208 de renseignement, de surveillance et de reconnaissance ISR, de l'évacuation médicale et assurer de formation à leurs pilotes et leur équipe maintenance. Aujourd'hui, ces véhicules et les avions blindés soutiennent directement les opérations et ont apporté une contribution importante à la lutte contre le terrorisme.
C'est un appui précieux et qui vient à point nommé, a déclaré le ministre de la Défense en réceptionnant le don, Kala Moutari.
Depuis l'année 2017, les États-Unis se sont résolument engagés à apporter leur contribution à la montée en puissance du bataillon du G5 Sahel. Pour ne parler que de ce bataillon, parce que la coopération entre les États-Unis et le Niger est une coopération riche, elle est soutenue et c'est une coopération qui a enregistré beaucoup d'appui, beaucoup d'échanges en matière d'appui matériel comme en matière de formation. Ce matériel que nous réceptionnons aujourd'hui représente une partie de l'appui combien important que la coopération militaire américaine apporte aux forces armées nigériennes et au-delà à tout le Niger dans la lutte contre les forces du Mali. Permettez-moi de vous assurer de l'utilisation à bon escient de ce matériel si précieux et qui vient à point nommé pour renforcer les capacités de nos forces de défense et de sécurité dans la lutte contre la sécurité dans la sous-région.
Les militaires nigériens sont engagés aux côtés de ceux des quatre autres pays du G5 Sahel dans la force conjointe mise en place par cette organisation sous-régionale, une force qui tarde à être effectivement opérationnelle pour des questions de manque de financement. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Tchad, condamnation à la prison à vie de deux anciens rebelles arrêtés il y a 2 ans au Niger et extradés au Tchad. Pour leur part, les auteurs, des auteurs présumés de tentatives de déstabilisation de la Guinée équatoriale en 2017, ont été eux condamnés à 20 ans d'emprisonnement ferme. C'est le verdict de la session criminelle spéciale dont l'ouverture a eu lieu ce jeudi au palais de justice de N'Djamena. Notre correspondant André Kotmadjingar fait le point.
Vous êtes appelé à juger des citoyens en conflit avec les lois de la République. Aucune pression ne peut perturber votre conscience. Vous devez dire quel est le droit et n'appliquer que la loi et votre intime conviction.
Mokhtar Abdelhakim Doutoum, procureur général, près la cour d'appel de N'Djamena, engageant la responsabilité des membres de la cour siégeant en matière criminelle. Les juges ont examiné 2 dossiers sur 3 jugés sensibles par certains personnels judiciaires inscrits dans le rôle. Il s'agit de tentatives de mercenariat et participation à des mouvements insurrectionnels. Après débat contradictoire entre le ministère public et la partie civile, les juges ont, dans leur ultime conviction, condamné à vie les 2 ex-rebelles arrêtés au Niger pour leur participation à un mouvement insurrectionnel. Roméo Roenan, l'un des 2 avocats constitués d'office pour la défense, se dit déçu pour ce verdict.
Nous avons évoqué les dispositions de l'article 2 du Code de procédure pénale qui dit que l'action publique s'éteint par l'amnistie, une ordonnance qui a été signée. Donc, les faits qui leur sont reprochés sont couverts par cette ordonnance. Franchement, c'est une déception. Mais nous avons l'opportunité de nous pourvoir en cassation dans un délai de 10 jours. On le fera. Il y a une politique de 2 poids, 2 mesures.
Pour Mahamat Nouri Bedou, secrétaire général de la Convention tchadienne de défense des droits de l'homme, ces 3 anciens rebelles, dont l'un a rendu l'âme en prison pour mauvais traitement, sont victimes d'une injustice.
Ils avaient été victimes d'une extradition irrégulière. Parce qu'à l'époque, nous avions dénoncé cette extradition-là. Mais maintenant, même, ils auraient dû être amnistiés quand on applique un traitement à une situation de. On l'applique à tout le monde.
Yurungar Ngarledi, opposant éternel du régime au pouvoir, estime que l'extradition et la condamnation de ces anciens rebelles violent les conventions internationales en matière de statut politique ratifiées par le Tchad.
Ce sont des gens qui bénéficient du statut de réfugiés politiques, voilà, qui se retrouvent ici condamnés. Donc c'est une justice expéditive. Quand le Tchad ratifie les conventions internationales en matière de statut politique, il doit se conformer à ça. Le Niger, qui a prêté main forte, est aussi coupable. La violation des traités et conventions internationales que le Tchad a ratifiées avec la signature de début, violée, c'est dommage.
La cour déclare par ailleurs 4 autres accusés sur 12 présents à l'audience coupables du crime de tentative de mercenariat tendant à déstabiliser la Guinée équatoriale en 2017 à 20 ans d'emprisonnement ferme et 6 par défaut. Un mandat d'arrêt international est lancé contre ceux qui sont en cavale. André Kodmadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
République démocratique du Congo, le FMI a publié mardi pour la première fois en 5 ans un rapport sur la situation économique de ce pays. La croissance est quelque peu en baisse, mais la RDC reste sur la bonne voie. Une dernière revue est attendue en août prochain avec une éventuelle reprise du programme avec le FMI. Eric Ambango de Top Congo FM a recueilli la réaction du vice-ministre des Finances, Jean-François Mukuna.
Le FMI reconnaît que depuis 2015, il y a eu des variations baissières. Et avec l'année 2018 que nous avons pris en charge nous-mêmes financement des élections et que nous sommes actuellement en situation haussière. Mais ça reste fragile parce que la RDC, comme vous le savez tous, ils ont bien noté que nous dépendons beaucoup des recettes minières. Avec quelques soubresauts, comme vous connaissez les codes miniers révisités, ça pose quelques petits soucis par rapport à ceux qui investissent. Néanmoins, de là, ils reconnaissent que les efforts sont fournis d'une manière considérable, qu'il faudrait sur le plan social maîtriser la masse salariale et en même temps avoir des objectifs précis pour résorber la pauvreté. Ce qui veut dire quoi en plus clair? Les efforts sont reconnus, les recommandations sont faites, maintenant c'est à la République démocratique du Congo d'analyser et de faire un choix. Mais l'idée principale c'est rentrer en programme avec le FMI. Je crois que de ce côté-là c'est pas négatif parce que nous appelons justement avec la nouvelle politique du nouveau chef de l'État qui vient d'accéder au pouvoir, une reprise avec les institutions internationales, tous les aspects financiers. Mais en filigrane quand même cette souveraineté nationale qui nous est chère ne nous échappe pas non plus.
Mais la croissance en 2019 sera un peu moins que 2015, 4% un peu plus à peu près. Est-ce que cela n'est pas inquiétant?
Non, je ne pense pas que cela soit inquiétant. Vous savez, dans tout ce qui est prévision économique, il y a ce qu'on appelle le scénario optimiste, réaliste et pessimiste. Le FMI, comme c'est quelque chose qui apporte l'argent, c'est normal qu'il soit toujours sur les réserves. Mais les marges de manœuvre sont importantes. Le FMI le reconnaît, il y a des marges. À nous maintenant d'amorcer les réformes conséquentes pour que ces marges se transforment réellement en taux de croissance. Et en plus, l'incertitude internationale, qui peut garantir qu'un taux annoncé aujourd'hui sera le même dans 6 mois?
Est-ce qu'aujourd'hui la reprise d'un programme avec le FMI ne peut pas avoir un effet négatif, comme quoi le FMI, voulant aider le Congo malade, peut également aggraver la maladie pour que ce Congo demeure sous sa dépendance?
C'est un risque, mais comme vous savez, dans toute politique, il y a part du risque. Si vous n'assumez pas les risques, c'est que vous n'êtes pas politique. Mais comme nous avons déjà assaini les bases de nos finances publiques, je crois que nous pouvons amortir facilement le choc, tout en ayant une gestion prudente et des investissements à la hauteur des enjeux. Comme vous le savez aussi, il y a des investissements qui peuvent être productifs, d'autres qui endetteraient le pays d'une manière négative, qui va impacter d'une manière négative. Donc c'est aux dirigeants de voir où ils peuvent mettre les curseurs pour que ça aille mieux.
Joint à Kinshasa, Jean-François Mukuna, le vice-ministre congolais des Finances.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoulia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.